grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, en partenariat avec l'Obs, une question, faut-il en finir avec le genre? Le genre, l'un des grands principes structurants de la vie sociale. Nos mots, nos gestes, nos corps sont genrés, traditionnellement masculin, féminin. Et pour certains, ni l'un ni l'autre, bien au contraire, on assiste depuis quelques années à une remise en question de cette dichotomie. Chez les jeunes notamment, certains parlent même d'une révolution du genre. Selon un sondage YouGov pour l'Obs, 14% des 18-44 ans se considèrent comme non-binaires et n'assument plus une identité jugée trop restrictive à leurs yeux. Et de puiser dans une quantité de termes pour se définir, gender fluide, bigenre, androgyne, demi-fille, demi-garçon, c'est l'occasion ce matin de se demander ce qui fonde le masculin et le féminin, d'interroger les représentations, les stéréotypes, les frontières entre la féminité et la masculinité. Pour nous éclairer ce matin, l'écrivain universitaire Belinda Cannon, le sociologue et philosophe Raphaël Liogier, l'écrivaine Sonia Ferchak et la journaliste Audrey Cerdan. Et vous, pensez-vous qu'il faut en finir avec le genre? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors dans votre petite philosophie de la vie quotidienne, il sera question d'une philosophe souvent caricaturée.
Oui, je voulais ce matin faire une petite plongée au cœur de la pensée de Jalit Butler. Voilà, trois idées qui me paraissent essentielles pour bien comprendre ce que cette grande spécialiste du genre peut apporter à la réflexion.
A tout à l'heure Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Faut-il en finir avec le genre? C'est la question que je vous pose ainsi qu'à nos invités. Bonjour Belinda Cannon.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous préférez le terme écrivain-écrivaine. Ai-je lu dans votre livre La Tentation de Pénélope?
Oui, mais je n'en ferai pas une maladie. Mais ça ne m'intéresse pas en effet qu'on retrouve mon genre dans mon métier.
Vous enseignez la littérature à l'université de Caen et vous publiez chez Pocket La Tentation de Pénélope, une nouvelle voie pour le féminisme. Bonjour Raphaël Liogier, vous êtes sociologue et philosophe, vous êtes professeur à Aix-Marseille et actuellement chercheur invité à l'université Columbia à New York et vous avez publié Au lien qui libère, Descente au cœur du mal. Bonjour Sonia Ferchak.
Bonjour.
Écrivaine.
Oui.
Vous aimez bien ce mot?
Eh ben, alors comme Belinda, dans un premier temps, je me suis dit, mais non, quand j'écris, je suis juste un individu qui écrit. Et puis finalement, je pense que j'écris beaucoup plus avec ma part féminine.
Et vous avez publié l'Encyclo des filles, indispensable chez Grund. Audrey Cerdan, vous êtes journaliste à l'Obs. Et vous avez co-rédigé le dossier La Révolution du Genre. C'est quoi d'ailleurs le genre, Audrey Cerdan? Le Robert nous dit que c'est la construction sociale et culturelle de l'identité sexuelle. Le genre, c'est le sexe social, culturel, et non pas biologique?
Oui, en quelque sorte. L'idée qu'on avait quand on a commencé à lancer ce dossier, c'était de raconter l'oppression que vivent plein de gens sur les stéréotypes de genre. C'est-à-dire pourquoi est-ce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol, qu'on considère que parce qu'ils sont des filles, parce qu'ils sont des garçons en l'occurrence, ils sont courageux, aventuriers, on leur assigne un certain nombre de rôles, alors qu'inversement, si... elles sont des filles, elles sont censées être douces, sensibles, coquettes. Et on sent qu'il y a un ras-le-bol de plus en plus fort autour de ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les stéréotypes de genre. Et c'est ce qui construit socialement les codes du genre, quoi. C'est tous les rôles qu'on assigne à un genre ou à un autre, qui est à différencier du sexe biologique.
Belinda Cannon, c'est quoi le genre?
C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est la manifestation de ce qu'on nous a appris en termes d'attitude et de comportement. Et effectivement, je crois que c'est quelque chose dont il faut, peut-être pas du genre, on y reviendra, mais en tout cas c'est quelque chose contre quoi il faut travailler, cette assignation à des stéréotypes.
Sonia Ferchak.
Oui, c'est la partie culturelle de notre identité sexuelle. Et alors moi, ce que je trouve très difficile, c'est qu'effectivement, il faut lutter contre le stéréotype, et Dieu sait qu'ils sont forts, mais je trouve qu'il ne faut pas oublier non plus le corps, et je trouve que là-dessus, il y a un équilibre qui est très compliqué.
Alors j'étais très surpris d'apprendre, Audrey Cerdan, que 14% des 18-44 ans se considèrent comme non-binaires, selon un sondage YouGov pour l'Obs, et au-dessus de 44 ans, ils sont 8%.
Oui, alors il faut différencier ceux qui disent oui tout à fait, qui sont 6%, de ceux qui disent oui plutôt, qui sont 8%. Mais rien que le oui plutôt, je le trouve intéressant parce que ça montre aussi que c'est pas quelque chose de forcément visible, qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire à l'intérieur d'eux non-binaires, sans pour autant en faire des caisses et en parler autour d'eux constamment. Il y a dans le papier de cadrage qu'on publie, il y a Karine Espinera qui est sociologue, qui travaille sur ces questions et qui est citée et qui dit c'est un positionnement plus politique qu'identitaire. Et c'est vrai que c'est une bonne façon de le voir. C'est-à-dire, il y a aussi c'est une façon de repenser le genre pour soi qui ne signifie pas que c'est quelque chose qu'on voit extérieurement, quoi.
Mélinda Canon.
Oui, moi, j'ai quand même envie de dire d'emblée que je raisonne plutôt en déplaçant les chiffres et les pourcentages, plutôt que de savoir qui se trouve du côté des binaires ou des non-binaires, etc. J'ai tendance à dire, moi, je traficote les chiffres, je dis n'importe quoi, je suis une littéraire, il faut me pardonner. Moi, j'ai tendance à dire autre chose, c'est-à-dire que dans la plupart des situations de l'existence, je dis 80% parce qu'il faut bien dire quelque chose, dans la plupart des situations de l'existence, on n'est pas un homme ou une femme, on est une personne humaine en train d'agir. Et puis, il reste, alors je dis 20%, vous comprenez qu'à quel point je bricole, mais il reste une part des situations qui sont liées plutôt à l'érotisme, justement à la sexualité ou à la maternité, en effet, ou du moins au fait d'être enceinte. Il reste cette petite part dans laquelle le genre intervient. Et c'est là-dessus que c'est contre ça que protestent sans doute ces non-binaires. Mais rappelons quand même, de façon générale, que la question du genre, elle ne se pose pas dans 80% des situations de la vie.
Sonia Ferchak.
Oui, moi je trouve intéressant aussi de placer cette quête, cette revendication dans un contexte philosophique et historique. C'est-à-dire qu'avec l'existentialisme de Sartre, on se délie de sa lignée, de sa communauté, de sa religion. On voit bien qu'aujourd'hui, on invente sa sexualité comme on invente son look. Et ça, je pense que c'est de plus en plus acté, l'orientation sexuelle est libre. Et donc là, il y a cette volonté de se détacher aussi de son corps. Et voilà, et ça devient possible. Donc après, est-ce que c'est facile ou pas, c'est une autre question. Raphaël, ça devient possible.
Raphaël Liogier, en duplex de New York.
Oui.
On vous écoute, Raphaël.
Moi, je crois que... Oui, merci. Je crois qu'il faut se rendre compte, puisqu'on parle justement d'évolution historique, que finalement, cette évolution actuelle, elle ne vient pas de nulle part, elle vient directement de l'idée même de modernité. Enfin, c'est vraiment l'application de l'idée même de la modernité depuis le 18e. La modernité, qu'est-ce que c'est ? La modernité, c'est cette espèce de revendication d'une existence où on choisit ses modalités, c'est sa modernité, son mode d'existence. Et donc ça commence par la profession, la classe sociale, c'est-à-dire qui n'est plus prédéterminée, qui n'est plus déterminée a priori par votre naissance. Et ça, c'est le monde bourgeois. Puis c'est aussi ensuite au niveau politique le fait d'être le choix a priori et pas on détermine pas a priori la société dans laquelle vous vivez politiquement. Puis la religion, ça a été dit, c'est-à-dire c'est même ça le sens de l'évolution du protestantisme, c'est une protestation contre l'identité a priori. Et puis la race. Puis petit à petit, on va dans les cercles substantiels. Et là, on arrive à ce moment de l'évolution de la modernité, où c'est même un choix, c'est même la modalité d'existence que représente son identité genrée. Et c'est pour ça qu'on en est à ce moment-là de la modernité. On pourrait dire que c'est en quelque sorte le dernier moment de la modernité.
Le regard de Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette trajectoire de la modernité, mais ça reste pour beaucoup aussi, et souvent, pour une trajectoire un peu rêvée, un peu idéale. Parce que la modernité ou la post-modernité, elle nous fait aussi découvrir qu'on est plus déterminé, ou en tout cas plus influencé, influençable qu'on ne le croit. Vous disiez, dans 80% des situations, on n'est pas genré. Oui, enfin, en même temps, il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, quand on est une femme et qu'on se promène dans la ville, tout simplement, l'espace n'est pas neutre et que l'espace nous renvoie à notre propre genre, justement.
Bien sûr, je parlais juste des moments où on agit. Je veux dire, quand j'écris, quand je travaille, quand je fais des tas d'activités, c'est-à-dire la plupart, je suis une personne en train de faire quelque chose.
Mais même au travail, il y a beaucoup de femmes qui sont renvoyées.
On vous renvoie, peut-être, bien sûr qu'on me renvoie. Ah oui, mais c'est très important comme nuance. Moi, j'ai la liberté d'être une personne quand j'agis. Maintenant, le regard des autres, c'est encore une autre dimension, en effet, contre laquelle on peut se battre, d'ailleurs.
Sonia Ferchak.
Oui, historiquement, il y a aussi une chose que je trouve importante de dire, c'est que au départ, la sexualité, ce sont les modes de reproduction plus les comportements et les habitudes culturelles liées à la sexualité. À partir des années 70, avec la chimie et la pilule, la contraception chimique, on sépare la sexualité de la reproduction. Et du coup, on peut beaucoup plus inventer sa sexualité.
Audrey Cerdan, on peut faire un point sur la différence entre le sexe, le genre, les non-binaires. Commençons par le sexe.
Alors le sexe, c'est tout ce qui est lié à l'anatomie. C'est l'appareil génital, les caractères sexuels.
Les hormones.
Voilà, c'est ça. Et le genre, c'est les constructions sociales. Donc, c'est les rôles et les comportements qu'une société considère correspondre à un sexe masculin ou un sexe féminin. Et donc, c'est tout ce qui est construit autour d'un attribut physique.
L'orientation sexuelle, c'est l'attirance sexuelle et physique. Et la non-binarité?
Alors, la non-binarité, plutôt parler des non-binaires. Les non-binaires sont des personnes qui ne s'inscrivent pas dans la binarité homme-femme, donc ne se reconnaissent ni strictement femme, ni strictement homme. Ça, pour certains, c'est être les deux à la fois. Pour d'autres, c'est être entre les deux. Pour d'autres, c'est être ni l'un ni l'autre. C'est des gens qui ont une bonne image, je trouve, qui, pour beaucoup, disent c'est comme un spectre. Il faut voir le genre comme un spectre dans lequel on peut circuler, dans lequel on est libre. Et c'est s'ajouter une liberté supplémentaire. On a un des témoins qui raconte que pour lui, la façon dont il se ressent, la façon dont il ressent son genre, c'est 20% féminin, 20% masculin, 60% autre. Et je trouve que c'est une bonne manière de montrer qu'il y a autant de situations que d'individus.
Oui, finalement, j'essaye de me reporter en arrière. Est-ce qu'on n'a pas tous vécu ça, mais sans le dire aussi ? C'est que même quand on est très clair, c'est mon cas, et en même temps, je sais qu'il y a plein de choses pour lesquelles j'avais plutôt des caractères de garçon, on va dire, si tant est que c'est un sens, et on n'en faisait pas grand cas. Alors après, là, et les très beaux portraits le montrent, ce sont des exemples douloureux,
dans l'Obs,
où ça tiraille, oui, les exemples de l'article de l'Obs. Mais finalement, je pense qu'on l'a tous vécu aussi.
Et pour ajouter à la confusion des genres, il existe les six genres. Et ça, c'est quoi exactement, Audrey Cerdan ?
Alors, les six genres, c'est les personnes dont l'identité de genre correspond à leur sexe assigné. Donc, c'est si vous êtes né avec un sexe féminin et que vous vous ressentez femme, vous êtes ce qu'on appelle six genres.
Raphaël Liogier, du point de vue du sociologue, quel regard vous portez sur cette profusion d'identité de genre ? Comment expliquez-vous cette angoisse identitaire qui s'inscrit sans doute dans un mouvement beaucoup plus large?
Oui, alors, moi je crois que cette angoisse identitaire, comme vous dites, elle est liée à cette nouvelle culture du genre, qui est aussi une nouvelle culture de la sexualité, qui est une culture de l'autonomie. Moi, je ne crois pas, parce qu'il y a un de vos invités qui disait que dans les années 70, on a séparé la sexualité au sens de reproduction et ensuite la culture. Non, depuis que l'humanité est humanité, depuis l'aube, pourrait-on dire, de l'humanité, la sexualité est toujours aussi une culture. On a le rapport à l'excision. L'excision, c'est une culture, ça n'a rien à voir avec la reproduction. La construction du fantasme dominant, de la virginité, un certain rapport aux femmes, etc. C'est quelque chose qui est très très ancien et qui est aussi une culture. Alors justement, cette culture de l'excision, que j'appelle moi aussi excision morale, lorsque c'est pas seulement de l'excision physique, c'est-à-dire le fait d'avoir une vision, une sorte de fantasme masculin, de soumission des hommes, de soumission des femmes par les hommes, c'est une culture qui utilise la sexualité pour nier l'autonomie. Aujourd'hui, à la suite de la modernité, on est dans une culture de l'autonomie, de l'élargissement de l'autonomie, pas seulement dans le rapport homme-femme, c'est-à-dire des femmes par rapport aux hommes, puisque c'était la domination, on pourrait ainsi dire, originelle, mais de l'autonomie de toutes les subjectivités. C'est là le développement du genre. Et pour répondre à votre question de la multiplicité du genre, de la fluidité, etc. Mais pour répondre plus précisément à votre question, pourquoi est-ce que ça renvoie à une angoisse? Eh bien, parce que l'autonomie, ça renvoie toujours à une angoisse. L'autonomie, ça fait peur. Quelqu'un a parlé de Sartre tout à l'heure. Sartre nous montre que l'autonomie, c'est aussi, c'est la liberté, et que la liberté, c'est angoissant. C'est-à-dire que quand on vous laisse à vous-même, eh bien, ça crée une sorte d'espace aussi abyssal. On a du mal, comme disait Sartre, parfois, à supporter sa propre liberté. On se rassure dans des formes de contraintes. Je vous rappelle que souvent, ceux qui sont les plus dominés sont ceux qui ont le plus peur, au départ du moins, de perdre cette domination. C'était le cas par exemple sur le vote des femmes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des groupes de femmes qui voulaient se défendre. Se défendre de quoi? Du droit qu'on voulait leur donner de voter, alors qu'elles ont... Donc vous voyez, c'est le développement de l'autonomie, et cette autonomie, effectivement, elle est source aussi d'angoisse.
Allez, dites-nous s'il faut en finir avec le genre au 01 45 24 7000. Et pour la première fois dans Grand Mais Vous Fasse, Mylène Farmer, sans autre façon. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Quand vous faisiez des chorégraphies en imitant Mylène Farmer, sans contrefaçon. Dans ma chambre, bien sûr, oui, bien sûr.
On se posait la question quand même de savoir en France, est-ce qu'il faut laisser les petits garçons jouer à la dinette, est-ce qu'il faut laisser les petites filles jouer aux petites voitures?
Grand bien vous fasse.
Bien sûr qu'on peut laisser les petites filles jouer aux petites voitures. Si on peut leur apprendre dès 3 ans à faire un créneau, tu vois.
Sur France Inter.
Et 10h26, faut-il en finir avec le genre? C'est la question que nous vous posons ce matin avec l'Obs au 01 45 24 7000. Alors Sonia Fertchak, Belinda Cannon, vous vouliez revenir sur l'angoisse identitaire liée à la question du genre.
Oui, alors, d'abord, c'est juste une jolie phrase de Stendhal qui disait « Il est plus difficile de vivre en homme libre qu'en esclave ». Et effectivement, la liberté veut dire qu'il faut choisir, qu'il faut inventer. Une très jolie phrase d'une jeune fille qui m'a dit « Ce n'est pas ce que tu es qui va définir ce que tu aimes ». Et So, donc très bien, donc acte, mais du coup ça veut dire qu'il faut se définir, et ça c'est il y a ces crises justement 20% masculin, 20% féminin, 60% autre, qui dit, je trouve dans ça l'Obs. Très joli dans l'Obs, j'adore avoir cette liberté de pouvoir me réinventer, même si je ne le cache pas, j'ai traversé des périodes très difficiles. C'est difficile de s'inventer tout le temps, c'est une énergie.
Belinda Cannon.
Oui, je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Raphaël Laugier. Bien sûr qu'on est entré dans un état général de la société, de notre civilisation, quasiment de celle de l'individu souverain qui ne veut plus avoir aucun de contre à rendre à aucun diktat qui lui serait imposé de l'extérieur. Et donc chacun est sommé même d'être lui-même, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, de se réinventer, etc. Donc en effet, c'est le moment de la société. Je me demande quand même s'il n'y a pas eu aussi, dans ces dernières années, et aussi dans ces dernières années de féminisme, un appel à la différence, une revendication de l'extrême spécificité des femmes, qui fait que peut-être qu'on en a eu assez. Je trouverais ça assez bien. Moi, j'étais très contre ce type de féminisme, ce qu'on appelle tout le temps au féminin dans les personnes de sexe féminin. Peut-être qu'il y en a eu assez d'être assignée constamment à une identité de genre, et que du coup, ça crée cette espèce de fluctuation. Là, ces gens qui disent, ben moi, j'appartiens à pas grand-chose. Je le prends comme une revendication de liberté, si c'est en effet un refus d'être assigné à des normes de genre.
Bonjour Élie, bienvenue. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Élie, E-L-I, bienvenue. Vous appelez du Puy de Dôme.
Bonjour à vous. Bonjour à vous et merci de prendre mon témoignage et mes questions. Alors moi j'ai plusieurs questions à vous poser et un témoignage. Tout d'abord, je voudrais vous parler le fait que vous disiez à chaque fois on invente. Et on invente son genre, on n'invente pas, c'est-à-dire nous, on est un genre, on est des genres, mais on s'invente pas des genres. Personnellement, je suis un homme trans, donc je suis une femme. Je n'ai pas inventé du jour au lendemain ma transidentité. J'ai toujours vécu ma transidentité et un jour, j'ai réussi à dire que j'étais trans, que j'étais pas bien dans mon corps de femme et que moi-même, j'étais un homme au plus profond de moi-même. La seule différence, c'est que ben, aujourd'hui, c'est même pas une question de modernité, c'est une question ni une question d'influence. La modernité, aujourd'hui, ça nous permet, effectivement, par rapport aux hormones, de pouvoir vivre notre genre. Mais ce genre-là a toujours existé, même dans les Romains ou chez les Amérindiens. Les personnes trans étaient justement des personnes hyper bien vues, parce qu'on avait, ces personnes-là avaient le genre féminin et masculin qui était un atout pour eux, ce qui a changé effectivement après la venue des blancs chrétiens. Mais je veux dire, ça a toujours été là, comme les personnes intersexes ont toujours été là. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas voilà un truc de civilisation. C'est là, c'est présent et ça a toujours été comme ça. C'est naturel. Après, moi, ma question que je voudrais te poser et ce que je voudrais soumettre, c'est pourquoi aujourd'hui le genre peut générer autant d'intolérance. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, moi, on me juge sur mon genre. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de mal à une mouche, j'ai toujours été gentil, je suis correct, respectueux.
Ça se sent, Élie, ça se sent.
Sur mon genre. Voilà la première question que je voulais poser par rapport à ça, et aussi par rapport au fait que le fait d'être binaire ou non-binaire, je veux dire, il a toujours existé des gens non-binaires.
Qui veut répondre à cette question sur l'intolérance, Belinda Cannon?
Moi, je répondrai à côté. Je vais déplaire à Élie, mais moi, j'ai toujours des espèces de réticences à cette idée que ce que dit Élie là, c'est que son genre est profondément inscrit en lui, comme si c'était non pas un genre, mais comme si c'était un sexe. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une erreur, il a eu un corps de femme, mais en réalité, son genre profond, intime, etc., c'est le genre masculin. Et moi, je suis pas sûre que le genre soit aussi inscrit dans une sorte de naturalité. Tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, c'est que justement, il l'est pas. C'est qu'on a à inventer. Alors justement, Élie proteste contre cette idée d'invention, mais on peut faire ce choix, je sais pas pourquoi, à quel tréfonds de l'inconscient ça se situe, etc. Mais il y a un moment donné où quelque chose en nous va choisir un autre genre. Mais j'ai un peu de mal à entendre le fait que ce genre serait inscrit en nous et que par erreur, la nature nous aurait donné un autre corps.
Sonia Fertchak.
Oui, je pense aussi que Élie, pourquoi c'est justement parce que c'est plus visible. C'est-à-dire que je regardais l'histoire d'Orlando. Orlando, c'est Virginia Woolf. Elle a écrit ça pour Vita Sackville-West, qui était son amante. Et le fils de Vita disait que c'était la lettre d'amour la plus aboutie de Virginia Woolf. C'est qu'avant, finalement, c'était moins visible. Les hormones permettent cette visibilité. Les séries, c'est incroyable. Ce que, à mon avis, c'est un sujet gigantesque. C'est à quel point la représentation des minorités, et notamment des transgenres...
Dans la série Transparent, notamment.
Transparent, Orange is the New Black, tout ça a une influence considérable. Et donc rend plus visible, et donc ça fait peur.
Audrey Cerdon.
Oui, dans le journal, on a interrogé un certain nombre de personnes qui se disent pour la plupart non-binaires. Et c'est vrai qu'on a posé la question à beaucoup d'entre eux de est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que c'est un choix? Et beaucoup nous ont répondu non, avant tout, c'est un ressenti. Avant tout, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, mais les deux sont possibles et des fois, c'est un mélange des deux. Mais je pense que c'est important de respecter le fait que c'est un ressenti et que c'est pas nécessairement un choix.
Raphaël Liogier sur le témoignage d'Élie.
Oui, alors déjà je voulais dire une petite chose. Quand Élie nous dit que c'est pas une question de modernité, c'est une question de modernité, mais pas au sens du progrès technique. Je comprends, il y a des progrès techniques qui permettent de faire un certain nombre de choses qu'on pouvait pas faire avant. Mais ce qu'on entend par modernité, c'est effectivement la possibilité presque politique, sociale et culturelle de rendre actuel ce qui jadis était rester un potentiel chez l'individu, c'est-à-dire un désir inassouvi d'être ce qu'il avait envie d'être. Donc, et c'est là où on en vient à sa question. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça provoque autant de réactions qui peuvent être parfois des réactions un peu violentes, etc. Ben c'est justement parce que c'est possible de pas seulement être une minorité, ça a été dit, hein, invisible, contrainte. Ce que j'appelle moi une minorité passive, c'est-à-dire que tout le monde sait que vous êtes différent, mais si en quelque sorte vous ne la ramenez pas, on ne vous embête pas. Mais aujourd'hui, ce qui est possible dans la modernité, c'est de devenir ce que j'appelle une minorité active, c'est-à-dire d'agir sa situation de minorité. Et à ce moment-là, ça provoque une réaction de la société aussi, parce que nous sommes dans une période de transition. C'est-à-dire qu'il y a, ça a été dit aussi au début de l'émission, il y a l'inertie de tous les symboles, de tout ce qu'est notre société. Par exemple, c'est pas parce qu'on reconnaît aujourd'hui que les femmes sont les égales des hommes qu'il n'y a pas encore au travail, au quotidien, des réactions, des regards, des façons de se comporter qui parfois même peuvent être encore plus violentes, encore plus réactives parce que c'est pas encore accepté, parce qu'on est dans cette période de transition. C'est un peu comme le racisme, c'est un peu comme le développement même à un moment dans l'histoire de la liberté religieuse, lorsque ça s'exprime, c'est effectivement plus visible, c'est encore transitoire, c'est difficile.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, puis je crois que on peut retourner un peu le raisonnement, c'est-à-dire que pour répondre aussi sur cette question de l'intolérance, cette intolérance et même cette violence, hein, parce que les minorités qui deviennent visibles sont frappées, enfermées, exécutées dans différents pays, etc. Même en France, il y a des agressions régulières. Ça témoigne du fait que cette distinction, cette binarité, elle est profondément structurante, non seulement pour l'ordre social. Alors certes, il y a des transitions, des effets, mais ça reste structurant. Mais la binarité, ça reste quelque chose de structurant aussi, simplement pour notre raison, pour notre pensée. En fait, c'est très difficile. Beaucoup de notre réflexion et de nos pensées, de nos concepts sont binaires. Le cru, le cuit, l'intérieur, l'extérieur, le public, le privé. Voilà. Et donc, ça témoigne du fait que il faut non seulement socialement, culturellement, mais aussi presque rationnellement dépasser cette structure binaire. Et en fait, c'est une violence faite à la raison même. C'est difficile.
Merci beaucoup, Élie, d'avoir fait avancer la réflexion ce matin.
Vous n'êtes pas un homme, pardon.
Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
Votre apparence?
Ah bon? Ah bah, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir.
Alors, expliquez-moi.
Non, non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme.
Comment vous définissez-vous?
Comme non-binaire.
Comme non-binaire?
Oui.
D'accord, mais ni masculin ni féminin.
C'est ça.
Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau.
Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a quatre hommes sur le plateau. Non, c'est genré et ce n'est pas très agréable.
Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé.
Arnaud Gauthier Fawaz sur le plateau de Daniel Schneiderman dans Henri sur Image et qui se déclare donc non-binaire. Non-binaire comme Jeanne, une femme d'origine homme, comme elle le dit, il le dit, et qui a changé de genre à plus de 50 ans, Audrey Cerdan. Vous l'avez rencontré pour votre dossier dans l'Obs.
Oui, tout à fait. Alors, Jeanne a une histoire un peu particulière. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème d'identité de genre, effectivement, tardivement, vers 40 ans. Et elle a entamé une transition à ce moment-là pour aller donc du genre masculin vers le genre féminin. Donc, on peut considérer que c'est la quintessence de la binarité, d'une certaine manière, puisqu'on part d'un genre pour aller vers l'autre. Mais en réalité, elle explique quelque chose que je trouve passionnant, qui est que si la société n'imposait pas une telle binarité, elle n'aurait pas eu à faire cette transition. Et elle a des mots qui sont chouettes. Elle dit « Parce que pour le moment, il n'y a que deux modèles qui sont reconnus dans la rue. Soit c'est bonjour madame, soit c'est bonjour monsieur. Donc lequel ? Je préfère que ce soit madame, même si ce n'est pas satisfaisant de passer d'un genre limité à un autre genre limité, mais je n'ai pas le choix. » C'est vraiment l'illustration de ce que la binarité peut faire à quelqu'un. Enfin, la binarité, les injonctions peuvent faire. C'est-à-dire, si on est né homme et qu'on est assigné homme et qu'en fait, on ne se retrouve pas dans les assignations et les codes, on ressent un malaise important.
Alors la question du genre rappelle une évidence, hein, on ne naît pas homme ou femme, on le devient. La masculinité, la féminité ne sont pas naturelles, Belinda Cannon.
Pas du tout, elles sont construites. On naît en effet avec un sexe, on l'a dit hein, déjà depuis le début, tout le reste c'est une construction. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a une sorte d'intolérance, en effet une vraie intolérance à l'égard de ces fluctuations dans le genre et dans le sexe. C'est aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on touche là au fondement de notre société, aux structures fondamentales, et il faut bien le dire, ça crée des angoisses. Je ne connais aucun autre domaine dans lequel, lorsqu'on en parle avec les uns les autres, avec tout le monde, la réponse est absolument épidermique. Les gens ont tous un avis très brûlant parce que ça crée une angoisse incroyable, cette fluctuation.
Alors parler de genre, Sonia Fairchak s'est interrogée la construction socioculturelle dans les rôles assignés aux hommes et aux femmes, des inégalités construites socialement et culturellement et qui apparaissent naturelles. Et l'anthropologue Françoise Héritier parlait justement d'illusions naturalistes.
Oui, c'est que on a l'impression que c'est la nature, et alors qu'on sait bien. Enfin, moi, ça, c'est une expérience, excusez-moi, personnelle, mais qui m'avait frappée. J'ai eu un garçon après avoir eu une fille, et je lui ai mis la même petite combinaison rose quand il était bébé. Et les gens s'approchaient, croyant que j'avais eu une fille, et me disaient « Oh, comme elle est belle !» Et puis je leur dis « Ah non, c'est un garçon. Ah, comme il est fort !» et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Mais en même temps, et là, je voudrais revenir là-dessus, c'est que j'ai donné à mes enfants les mêmes jouets, des petites voitures, des livres, des poupées, et même, j'ai trouvé ça même vertigineux et presque angoissant, c'est-à-dire qu'à un an, ma fille se baladait avec un petit sac à main et jouait à la poupée, et mon garçon jouait avec les petites voitures en faisant et ça, plein de parents me l'ont dit, c'est qu'on on peut pas
sûr.
Non,
mais et je non, ne crois mais pas la pression sociale est énorme,
mais je
et
ne
elle,
crois pas
elle,
que ce soit
mais
que,
bien sûr,
que
elle la couvre toutes les secondes de notre vie.
Alors,
en société.
Alors, il y a une expérience qui a été faite chez les grands singes, ça n'empêche pas la construction culturelle, mais je ne crois pas qu'elle soit totale. Une expérience qui a été faite sur les Velvets. On leur a donné justement des petits singes, donc les petites guenons, on leur a donné des petites voitures, des petites poupées, des petits livres, et les jeunes singes, pareil. Eh ben, les jeunes mâles ont joué avec les jouets neutres et avec les voitures, et les petites filles avec les poupées, avec les jouets neutres. Des singes. Je pense que notre rapport le fait qu'on soit pénétré pendant la sexualité chez les hétérosexuels cisgenres et que, par ailleurs, on porte les enfants, ça change notre rapport au monde. Effectivement, une femme seule dans un parking le soir n'est pas comme un homme seul.
Il ne faut pas confondre ce que les autres nous renvoient et ce que nous nous sentons.
C'est vrai.
Parce que le jour où on sera moins coincé dans nos problèmes identitaires, il est possible que les non-binaires auront moins besoin de se battre pour dire « moi, je suis ». Quand ça deviendra plus naturel,
oui,
quand on admettra que la plupart du temps... Oui, l'indifférence qui est la nôtre dans la plupart des activités que nous avons. Je ne parle pas du regard des autres, c'est encore une autre question. J'allais quand même vous raconter une autre petite chose. Une fois, j'étais chez ma kiné, qui est une très jeune femme, très moderne, très d'aujourd'hui, qui a un petit garçon, et un jour, elle me dit « voilà, je vais arrêter parce que maintenant, je suis enceinte à nouveau ». bureau. Alors je lui demande si elle préférait avoir un garçon ou une fille. Elle me dit, en substance, elle me dit, oh ben, les deux ont des avantages, mais évidemment, si c'était un garçon, ils pourraient jouer ensemble. Et là, je lui dis, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? C'est-à-dire, si c'est une fille, elle pourra pas jouer avec son petit frère qui a 2 ans de plus qu'elle. Donc voilà, je veux dire, c'est ça aussi la formation, le formatage au genre.
Thibaut de Saint-Maurice, allez, j'attends avec impatience vos réflexions sur le genre dans votre petite philosophie de la vie quotidienne.
Oui, Alice, ça m'a donné envie, cette discussion, de vous emmener pour un petit voyage dans un chouette pays, vous allez voir, qui est celui de la philosophie contemporaine. Alors, à la rencontre de qui ? Eh bien, de la philosophe du genre, celle qui a travaillé toute sa vie sur ce concept et qui s'appelle Judith Butler. Voilà, elle est née en 1956 et elle enseigne encore à l'université de Berkeley aux États-Unis. Alors, pour certains, Judith Butler, c'est la référence ultime du féminisme intellectuel et en plus sur cette question du genre. Et pour d'autres, au contraire, c'est ni plus ni moins que l'ennemi à abattre, la source de toutes les perversions, tant sa pensée dérange. Donner un exemple. En 2011, l'université de Bordeaux l'invite pour lui rendre hommage et lui décerner le titre de docteur honoris causa. Eh bien, la cérémonie se trouve perturbée par des manifestants qui l'insultent. Judith Butler fond en larmes avant d'être rassurée par la salle qui se lève et pour l'applaudir, etc. C'est plutôt inédit dans la vie très feutrée et très policée des universités.
Alors, Thibault, en quoi consiste exactement la pensée de Judith Butler sur la question du genre ?
Alors, si vous me laissez le micro pour toute la journée, on peut faire un exposé
et non.
complet.
Et non.
Non, je sais bien. Alors, simplement, je voulais vous présenter trois idées qui me paraissent rendre compte de l'importance de son travail. La première idée, c'est celle qu'on pourrait appeler le renversement de perspective. On a tendance à penser, on l'a entendu aussi ce matin, que le sexe est naturel et que le genre est une construction sociale et culturelle. Et bah pour Judith Butler, ça ne se passe pas exactement comme ça. Il faut aller plus loin et renverser la perspective. Oui, bien sûr, le genre est une construction sociale et culturelle. Mais la différence sexuée aussi. C'est le genre qui est premier. Et d'ailleurs, les corps féminins et masculins n'en sont que la conséquence. Ils sont eux-mêmes des constructions à partir du genre. Pourquoi ? Bah d'abord parce que dans la nature, il n'y a pas que 2 sexes, il y en a plusieurs autres, il y a tous les cas d'intersexualité. Et puis ensuite parce que la différence sexuelle, c'est qu'une différence parmi d'autres, comme la taille, la couleur des yeux ou la couleur de la peau. La différence sexuelle a donc été choisie pour être construite comme une différence naturelle qui permettrait de justifier une différence de genre. Deuxième idée, c'est celle que Butler analyse dans son livre « Défaire le genre ». Si le genre est une construction, alors on peut le défaire. Mais attention, le défaire, c'est pas s'en débarrasser complètement. C'est plutôt, nous dit-elle, le subvertir, le critiquer, le contester, le parodier en faisant une performance. Quelque chose que l'on réalise avec son propre style, comme le font de manière très spectaculaire les drag queens. En fait, Butler, elle nous invite à être tous un peu drag queen. Ça veut dire, peut-être pas avec autant d'exagération, mais avec la même conviction. Ce qui compte, c'est pas de se libérer de toute norme de genre, parce que de toute façon, c'est impossible. Mais ce qui compte, c'est de faire quelque chose de ce que ces normes ont fait de nous. De s'en libérer en les interprétant pour s'en écarter et en montrer concrètement la relativité.
J'essaie de vous imaginer en drag queen, là, Thibaut
Saint-Maurice. Allez, troisième idée. Le but de toute cette réflexion et de tout ce travail sur le genre, c'est de rendre nos vies plus vivables. Comment ? Eh bien, en changeant notre capacité à reconnaître et à considérer ce que sont les autres. Spontanément, on a tous envie d'être reconnus pour ce que l'on est. Le problème, c'est que ce que l'on est, c'est un ensemble de normes qui nous enferment et qui réduit nos possibilités de vie. Alors, il faut changer. Il faut vouloir être reconnu non pas pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on pourrait être. La reconnaissance ne doit plus être une procédure d'identification, mais une acceptation du possible. Voilà, tout le travail de Butler, c'est pas de détruire le genre ou de nier les différences et de faire en sorte que nous soyons tous les mêmes, mais c'est de subvertir le genre pour refuser qu'il nous enferme. Elle ne veut pas se débarrasser du genre, mais s'en servir comme d'un tremplin pour multiplier les formes de vie possibles. Alors on peut le dire autrement, la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais il me semble que le plaisir du voyage, c'est pas d'abolir les frontières, au contraire, c'est de les traverser.
Je vais noter votre métaphore, Thibaut de Saint-Maurice. La petite philosophie de la vie quotidienne, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Vous Fasse. Faut-il en finir avec le genre ? C'est la question que nous vous posons avec l'Obs 01 45 24 7000.
I know, I know.
Nora Jones, Winter Times.
Je vais ni faire à manger, ni faire une petite table. Parce que manger, j'ai une femme sur sa cuisine, c'est ça?
Grand bien vous fasse.
Bon, écoutez, mon petit, j'ai fait mon boulot, moi. J'ai dressé l'avion, je vous ai sauvé la vie. Là, je viens de tuer un croco. Vous pouvez au moins vous occuper du manger.
Sur France Inter.
Faut-il en finir avec le genre? C'est la question que nous vous posons ce matin avec l'Obs, 01 45 24 7000. Notre grand reporter Antoine Lee a voulu avoir le point de vue de trois enfants sur la question du genre. Il a rencontré une fille et deux garçons, tous âgés de 11 ans, Mia, Félix et Léopold.
Il faut savoir que déjà, une femme, souvent la femme, ça va être la mère au foyer. Ou faire le ménage avec le petit plumeau. Moi, je trouve ça ridicule. Et c'est ce qu'on voit dans les films.
Il y a beaucoup de chansons sur ça. Il y a par exemple une chanson de Queen. C'est mon groupe préféré, donc, qui s'appelle I Want to Break Free. Et en fait, c'est le clip, c'est une femme qui dit je veux être libre. I want to break free.
I want to break free. Moi, je suis totalement d'accord avec l'idée que la femme est égale à l'homme. Mais que cette défense pour les femmes commence à devenir une offense pour les hommes, parce que du coup, en ce moment, pour rassurer les filles, il y a trois fois plus de personnes qui disent que les filles sont meilleures que les garçons. J'ai des profs de français, moi, qui interrogent tout le temps les filles. Elles disent que les filles sont plus intelligentes que les garçons. C'est normal qu'elles aient de meilleures notes. Enfin, ça se retourne contre nous.
Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait jamais eu de président de la République en France, femme ?
Les femmes qui se sont présentées, c'est pas à cause de leur sexe qu'on n'a pas voté pour elles, c'est à cause de leurs idées. Si Macron était une femme, tout le monde aurait voté pour elle quand même. Je pense qu'avec les stéréotypes d'aujourd'hui, les gilets jaunes, ils voudraient être moins méchants.
Et pareil, en général, ils frappent des policiers. Il y a beaucoup moins de policières qui se font frapper. Alors que si j'étais les policiers, j'en verrais plus de femmes que d'hommes.
Alors moi, il y a un truc sur lequel ça m'a choquée. On regardait la télé tranquillement et il y a une pub qui passe pour la coupe féminine de football. Pour par exemple la coupe du monde masculine de football, là, cet été, il y a au moins 70% du monde entier qui a regardé. Là, pour cette coupe-là, il y aura 10 fois moins de monde parce que ce sont des femmes. Et je le sais parce que moi, mon père regarde la coupe des hommes, mais jamais celle des femmes.
Et tu lui en as parlé ou pas?
Ouais, bah, il a trouvé ridicule mon discours sur l'injustice avec les femmes et j'ai pas compris pourquoi.
Alors moi, ce que je trouve débile, c'est qu'on fasse pas des équipes mixtes. Par exemple, des équipes de garçons et de filles. Parce que comme ça, au moins, il y a plus de gens qui pourraient regarder les filles jouer.
C'est aussi à cause du sexe. Parce que dans le football, honnêtement, il y a 30% de jeu et 70% de physique. C'est vraiment très comme ça. Et honnêtement, même les filles, elles ont des seins. Ça les rend plus fragiles. Typiquement, bah oui, on va pas se cacher. Tu vois, si on pousse comme ça en poussant le maillot, alors que ce soit totalement involontaire.
Bah, elle a qu'à mettre un truc en dessous de son t-shirt, je te jure.
Ça fait bang-bang, enfin, je sais pas, il faut pas mettre une armure au foot quand même.
Bah, moi, mon point de vue, franchement, même s'il y a du contact physique, on pourrait essayer. Parce que nous, dans la cour, on le fait, il y a beaucoup de contact physique. On peut essayer, vu qu'on y arrive, nous, enfants, ils peuvent y arriver adultes.
Alors, moi, je suis totalement contre l'idée de Léopold. Par exemple, le truc de la poitrine qui est fragile, je suis totalement contre. Les hommes, ils ont une partie qui fait quand on donne un coup de pied, ça fait super mal. Donc voilà, c'est pareil.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une vraie égalité entre les filles et les garçons?
Rétrécir le salaire des hommes plutôt qu'augmenter les femmes, parce que ça voudrait dire plus d'argent et enfin, je pense que les patrons seraient ruinés. Je pense qu'il faut baisser le salaire des hommes pour donner envie à la femme de prouver qu'elle est à l'égal des hommes.
Reportage signé Antoine Lee, Raphaël Liogier, vous êtes sociologue et philosophe en duplex de New York. Votre sentiment sur ce qu'on vient d'entendre?
Ah bah, mon sentiment, c'est qu'on a là, on a l'ensemble à la fois des préjugés, des idées sur cette différence fondamentale qui est la base, la structure même binaire, ça a été dit, de notre société, c'est-à-dire l'opposition homme-femme. Pourquoi? Parce que on a cette idée qu'il y a une sorte de naturalité de cette différence, mais surtout que cette naturalité, elle se rapporte. Qu'est-ce qui est le plus naturel chez nous? Elle se rapporte chez l'humain, c'est le corps, c'est son corps directement, et que donc c'est la différence corporelle qui justifie ensuite les formes d'inégalité. Et qu'est-ce qu'il y a qui a l'air d'être le plus naturel à l'intérieur même, dans le rapport, dans l'activité corporelle? Ça va être l'activité sexuelle. Comment est interprétée l'activité sexuelle? Je pense que c'est ça, le cœur finalement du problème. C'est que la pénétration elle-même est interprétée comme une activité où l'homme serait actif et la femme passive. Et ensuite, vous avez toute l'interprétation sociale, symbolique, où la femme, c'est la lune, l'homme, c'est le soleil, donc l'homme est actif, donc il est actif au sens où il a du travail, etc. La femme est passive, donc elle reste à la maison. L'homme est le héros parce qu'il est actif. La femme, elle est au contraire la princesse qui est sauvée, donc elle est fragile. C'est sa beauté, c'est sa fragilité, alors que l'homme, au contraire, c'est sa force, sa virilité, etc., etc., etc. Au fond, ce sont toutes ces structures qu'il faut déconstruire, et il faut la déconstruire au niveau même de l'interprétation de la relation sexuelle. C'est pas vrai même que dans le rapport sexuel, à la base, une femme est plus passive qu'un homme. Ce sont les hommes qui ont construit ce rapport entre passivité et activité. Je trouve intéressant que vous ayez cité aussi, juste avant, Judith Butler, parce que Judith Butler, elle est la preuve vivante, si je puis dire, que on peut être féministe radical, prendre les choses à la racine, c'est-à-dire au corps, c'est très exactement ce que fait Judith Butler, sur tous les préjugés liés au corps, à la sexualité, et en même temps, ne pas être extrême. Parce qu'au fond, être extrême, c'est être à la périphérie des problèmes. Alors on peut être radical et être critique, subvertir, comme disait Judith Butler, et donc subvertir quoi? Bah, subvertir à la base de ce qu'est un rapport sexuel, de ce qu'est un rapport sexuel, ce qu'est un rapport de force.
Ça vient faire check.
Oui, je trouve qu'attention, pendant un rapport sexuel, une femme n'est pas plus passive, ça, évidemment que non, mais par contre, on est plus vulnérable, on peut plus avoir mal qu'un homme pendant un rapport hétérosexuel. Et ça, c'est pas une construction.
Ce qui est intéressant avec la question du genre, c'est que ça pose la question du féminin et du masculin et des stéréotypes. Quels sont les stéréotypes qui affectent encore trop souvent la masculinité pour vous, Audrey Cerdan?
Moi, je voudrais prendre un exemple qui est la jeune personne qui est en couverture du journal, qui s'appelle Val, qui est donc non-binaire, et qui nous a raconté que quand il était au collège, il était attiré par personne, il n'était pas dans des questions de drague ou de séduction, mais par contre, on lui renvoyait constamment le fait, enfin, il a subi du harcèlement scolaire, hein, donc des insultes, des choses très dures, t'es efféminé, t'es pas assez viril, voilà, qui ont fait qu'il a renfermé en lui toute une partie de lui-même, et il a, pour ainsi dire, arrêté de s'exprimer normalement, il a arrêté de croiser les jambes, et du coup, en fait, il a fallu qu'il passe à autre chose dans sa vie pour arriver à réexprimer tout ça dans la vie adulte. Et maintenant, il explique que grâce à la non-binarité, et maintenant qu'il se dit non-binaire, il arrive à casser tous les codes, à porter ce qu'il veut, à se maquiller, à avoir un corps qui est juste son corps, ni masculin ni féminin. Mais il lui a fallu tout un processus pour arriver à se sortir des stéréotypes et de la douleur que ça peut provoquer.
Sonia Fertschak, Melinda Cannon, c'est dans le domaine des émotions que l'on retrouve encore le plus de stéréotypes. Une petite fille réservée, d'une petite fille réservée, on dira plus facilement que c'est normal, qu'elle est timide, parce que c'est une fille, et chez un garçon, on va peut-être pouvoir s'interroger. Pareil, ces stéréotypes autour du fait qu'une fille, ça se bat pas, un petit garçon, ça ne pleure pas. C'est encore dans ce domaine des émotions qu'on retrouve le plus de stéréotypes.
C'est très fort. Il y a une expérience très connue où on a déguisé un petit garçon à l'âge de la crèche en fille, et on lui demande de tout casser, et ensuite la petite fille on lui demande de tout casser, et quand on passe cette vidéo, eh ben le petit garçon il casse tout, mais c'est normal parce que c'est un garçon, et la petite fille, ah c'est vraiment super grave, c'est pathologique, elle va pas du tout bien celle-là.
Merci à tous, merci Melinda Cannon, faudra revenir parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Merci Melinda Cannon. La tentation de Pénélope est disponible en poche et pocket. Merci Raphaël Liogier depuis New York. Descente au cœur du mal, c'est publié au Lien qui libère. Sonia Fertschak, je recommande toujours votre encyclo des filles chez Grund. Et le papier, faut-il en finir avec le genre? Non, c'est pas exactement le titre du papier. La révolution du genre, c'est le dossier
ni
à lire
filles,
dans l'Obs de cette semaine. Demain, j'attends toutes vos questions sur le réchauffement climatique, l'effondrement. Nous évoquerons notamment la plainte contre l'État français pour inaction climatique. Nous recevrons Cyril Dion et Pablo Servigne, 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Johanna Gabric et Elisabeth Collet. À suivre, Nagui et sa bande originale.